Bon. En français dans le texte. Alors, quand on fonctionne en groupe, mais c'est vrai aussi en individuel, le premier point auquel on s'attache, c'est d'essayer de créer, c'est un peu une évidence, pardonnez-moi, j'enfonce un peu des portes ouvertes, c'est de créer un climat de confiance qui libère la parole. C'est encore plus important en groupe, parce que si on veut que l'échange soit riche, il faut que vraiment l'ensemble des couples réunis se sentent tout à fait en confiance. Donc, on crée un moment pour ça. On crée un moment pour ça, pour amener chacun à se présenter, à dire qui il est. On a un truc que, Muriel en parlera, on a une petite méthodologie pour essayer de faciliter ce moment-là, mais c'est vrai que plus la confiance est là, mieux ça se passe. Et on veille pendant ce moment-là avec les jeunes couples qui sont très souvent, je ne sais pas pour vous, mais nous, les couples qu'on accompagne sont le plus souvent très loin de nos paroisses. Donc, ils ont une vision de nous, entre guillemets, les cathos, qui est un peu poussiéreuse, qui remonte d'il y a longtemps et puis qui est extrêmement floue. Bon, donc, du coup, on essaie aussi de les mettre en confiance et à l'aise en disant que on n'est pas des profs, on n'est pas des examinateurs, on n'est pas des juges, on est juste là pour cheminer avec eux, de façon à ce qu'il n'y ait pas un sentiment de dire « oulala, si je ne dis pas la bonne parole qui va bien, on va me regarder avec des gros yeux bon, ». Il faut que ce climat-là passe, ainsi que le climat de confiance entre eux, pour que la constitution du groupe fonctionne bien. C'est un point clé. Tu peux peut-être dire deux mots sur la façon dont on fonctionne pour se présenter?
Oui, donc on a bâti un questionnaire avec dont le principe est en fait qu'on se présente deux à deux, bien sûr pas son conjoint, mais soit enfin un membre d'un autre couple. Les animateurs font partie
du groupe,
du groupe et se présentent au même titre que les autres. Donc, il y a des questions du genre qu'as-tu envie de dire sur ta famille, qu'as-tu envie de dire sur ta profession, que retiens-tu de votre première rencontre, pour moi, Dieu, c'est qui, et pourquoi le mariage à l'église. Donc, on échange deux par deux pendant près une vingtaine de minutes, et ensuite, celui à qui... C'est l'autre qui présente. Donc,
celui qui a reçu la parole voilà. présente la personne qui s'est présentée. Elle ne se présente pas elle-même.
C'est pas en couple.
Non, surtout pas. Ils se connaissent.
Surtout pas. Couple mélangé.
Voilà. Ouais. Après, ils sont en couple, on vous en reparlera.
En général, c'est très très riche et ça permet un petit peu de voir quels sont les points communs, etc. Et tout de suite, ça crée une. Un peu une ambiance entre les couples qui sont là et qui est très...
Et souvent entre eux, ils se rajoutent des questions qui ne sont pas prévues là-dedans, mais ils ont envie d'en savoir un peu plus et donc cette curiosité alimente le lien. Hein.
Alors sinon, nous, ce qu'on faisait quand on faisait de la préparation couple par couple, on essayait, dans la mesure où on allait pouvoir les voir plusieurs fois, on essayait avant, la première fois, de les voir complètement gratuitement en les invitant à dîner de façon à bien faire connaissance, à qu'il y ait une parole libre et que après la première rencontre quand on allait commencer à travailler, ben, ça, il y a déjà un climat de confiance qui se crée entre nous.
Alors après, on rentre un peu dans le vif, c'est-à-dire les quatre piliers. Bon, vous êtes là, vous êtes venu là ce soir un peu pour entendre parler de ça. Donc, c'est vrai que ce sont les quatre supports. J'avoue que moi, je suis un peu gêné par l'utilisation toujours de ce mot pilier, mais en même temps, ça correspond à une réalité. C'est les quatre soubassements du mariage, c'est les quatre fondations, c'est clair. Et ce qu'on essaie de dire à ce moment-là, c'est que ces quatre piliers, parce que très souvent, ils ont une image de l'Église qui est... assez réglementaire. On a le droit de faire ci, pas ça, ta-ta-ta, si on fait pas ci, on se... Bon. Et on leur dit, les quatre piliers, c'est pas un code de la route avec un flic au coin de la rue. C'est quatre fondamentaux pour vivre heureux. Donc, c'est une invitation au bonheur. C'est une invitation au bonheur. C'est pas une castration, c'est pas une frustration, c'est pas un moins de vie. Bien au contraire, c'est pour être un couple pleinement épanoui, la proposition qui vous est faite, c'est effectivement de vous appuyer sur ces quatre fondamentaux-là. Pour un bout, ça renverse souvent l'idée qu'ils en ont, parce qu'ils nous voient très souvent, Église, en disant « on a le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça bon, ». Là, leur dire « non, les quatre piliers, c'est vraiment, c'est pour vous, c'est une proposition réelle pour être heureux », ça modifie un peu leur perception. Et on leur dit que Jésus nous veut libre de toute entrave pour le suivre librement, qu'il est fidèle à sa parole. C'est-à-dire que les quatre piliers sont à l'image du Christ, en fait. Hein. Il est fidèle à sa parole et son amour a toujours été donné, et toujours donné, et redonné, malgré nos errements, malgré les chutes. Que sa parole est féconde, et c'est lui-même qui dit qu'elle ne reviendra pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Et que par sa mort et sa résurrection, l'alliance en son sang est éternelle. Donc on a vraiment les quatre éléments clés, cette à la fois liberté, je suis peut-être pas sur l'écran, mais bon, c'est pas grave de pas me voir. cet élément de liberté, de fidélité, de fécondité et d'indissolubilité, c'est à l'exemple même de la vie du Christ. Alors Muriel va vous parler un petit peu plus de la méthodologie qu'on adopte.
Donc on adopte une démarche en quatre temps. Maintenant, c'est moi qu'on ne voit plus.
Vas-y.
Voilà. Une démarche en quatre temps avec une réflexion individuelle, un partage en couple, un échange en groupe et un approfondissement avec la parole de Dieu. Alors la réflexion individuelle, elle est très importante et on invite même chacun à écrire en fait. On leur fournit une liste de questions à laquelle ils répondent. On met à chaque fois un petit espace pour qu'ils aient la place d'écrire. Et on préfère faire d'abord cette démarche individuelle parce que sans ça, ils vont tout de suite prendre l'avis de l'autre. Donc, ah oui, c'est pour ça, moi aussi. Donc, alors que là, cette réflexion individuelle permet vraiment la parole personnelle. Donc, à partir, ça dure à peu près, on leur laisse un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, donc, ils partagent en couple.
À deux.
À deux, en se mettant un petit peu à droite, à gauche. Et l'objectif, c'est qu'ils arrivent à se dire des choses qu'ils ne se sont jamais dites.
Ce qui arrive très souvent. Bien qu'ils soient ensemble depuis des années. Un peu souvent.
Et ensuite, échange en groupe. En leur précisant bien qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ils ne sont pas du tout obligés de partager tout ce qu'ils ont écrit ou tout ce qu'ils se sont échangés tous les deux. Dans ce partage, souvent, il faut souvent que ça démarre, mais il y a toujours un qui parle plus facilement que les autres, qui commence à parler, puis après les autres suivent. Voilà. Et alors, à partir de cet échange en groupe, on s'appuie sur cet échange en groupe, donc les animateurs, pour approfondir à la fois les côtés anthropologiques du mariage et aussi nous appuyer soit sur des paroles de chrétiens, soit sur la parole de Dieu. Le plus souvent sur la parole de Dieu, de façon à essayer de leur faire découvrir le Christ à cette occasion.
Et puis découvrir que la parole, ce n'est pas une parole ancienne et historique, c'est une parole extrêmement actuelle qui les rejoint. Après avoir partagé entre eux, ils réalisent que cette parole, finalement, elle n'est pas étrangère à leur vie et elle rejoint leur vécu, leur quotidien, leur actualité.
Quel type de questions vous leur posez?
On va prendre chacun des piliers et puis on va rentrer dans le premier pilier qui est...
Alors attends, j'avais autre chose à ajouter, c'est que on s'appuie aussi sur les paroles du rituel. Oui. Pour chaque pilier, pour chaque pilier, il y a des paroles qui sont dans le rituel et qui insistent, par exemple, allez-vous vous engager vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte? Bon, ça, voilà. Ça touche la liberté.
On leur montre que ce qu'ils vont dire le jour de leur mariage, c'est exactement la traduction de l'invitation à vivre conformément à ces quatre grands supports. Voilà.
En plus du sujet de l'aspect 4 piliers, quel conseil vous pourriez donner quand vous avez dans votre groupe des couples qu'en fait, qui vivent déjà ensemble depuis des années, ou qui même sont déjà bien avancés dans la vie?
La plupart du temps, c'est comme ça.
Ouais. Parents, et plusieurs fois par an, même, ça arrive.
De mariage, en fait, pour vraiment essayer de briser cette casse et gagner ce climat de confiance, en fait, pour les faire parler. Quel conseil vous
Mais y a pas, on ne rencontre pas vraiment d'obstacles à ce niveau-là. Le fait qu'ils soient mariés, ils sentent qu'ils ne sont pas jugés sur le fait d'être déjà en couple, les parents, sans être mariés jusque-là. Nous, on avait un vieux curé qui disait « le bon Dieu n'est pas pressé », alors on ne leur dit pas ça à chaque fois, mais c'est vrai que dans cette rencontre avec Dieu, ils font la démarche de demander le mariage chrétien, de demander le mariage à l'Église, et que nous, on est là pour expliciter le sens, mais certainement pas pour avoir un quelconque jugement par rapport à eux. Donc, j'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait une position délicate. Parfois, c'est plus délicat, pas sur le fait de l'ancienneté de vivre en couple, mais quand il y en a un qui est vraiment loin de la foi et qui vient parce qu'il sait que c'est important pour son conjoint. Mais c'est parfois aussi très surprenant, c'est-à-dire qu'on a des personnes loin de la foi qui quelque part ont une intelligence du cœur et une ouverture extraordinaire, bien plus touchante souvent que des vieux briscards bien engagés depuis longtemps pour lesquels il y a moins d'émerveillement. Donc tout arrive, on peut absolument pas, enfin moi je me sens pas la possibilité de tirer des conclusions quelles qu'elles soient là-dessus.
On a même eu des couples âgés avec 40 ans de vie commune qui avait décidé de se marier à l'église parce que c'était un couple lui était pêcheur.
Il était marin pêcheur
et il prenait sa retraite et il n'avait pas vécu avec sa femme quasiment pendant toute sa vie parce qu'il était tout le temps en mer, il partait 6 mois d'affilée etc. Et prenant sa retraite,
il dit maintenant je vais l'épouser.
Voilà, maintenant je vais l'épouser. C'était très très beau. Bon, mais à chaque fois, même s'ils ont vécu 7 ou 8 ans ensemble, ce qui arrive la plupart du temps, ils ont pris une décision là. Oui, ils ont décidé de se marier et de se marier à l'église. Et ça, c'est pas courant quand même.
Il y en a
plus beaucoup qui décident de se marier à l'église. Donc ils sont ouverts.
Allez, on démarre là-dessus, sinon on va se trancher assez longtemps.
Alors, on commence donc par le pilier, la liberté. Donc, on démarre donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par une grille de questions qu'on leur donne, et donc avec un temps pour réfléchir en couple, tout seul, et réfléchir en couple ensuite. Voilà. Donc, la liberté, les questions qu'on a choisies, c'est « Ai-je le souvenir d'un moment précis où on a décidé de s'engager l'un envers l'autre ?» Alors ça, c'est une question très importante parce que ça leur permet de se dire « Ah oui, tiens, il y a un moment où j'ai pris la décision. » Parce qu'on est souvent, comme on disait tout à l'heure, avec des couples qui vivent depuis 7 ou 8 ans ensemble parce qu'ils s'aimaient, donc ils ont décidé de vivre ensemble. Et ils ont envie de faire un enfant, souvent ça se passe comme ça. Du coup, ils vont se marier, parce que c'est mieux de se marier pour avoir un enfant. Et parfois, il n'y a pas eu vraiment de décision qui a été prise. C'est un fil un peu qui continue. Et donc, l'objectif de cette question, c'est de se faire dire « Ah bah oui, tiens, ce jour-là, je t'ai dit ça. » Ai-je déjà fait l'expérience de te dire oui ou de te dire non, même au risque de te déplaire? Que s'est-il alors passé? Donc ça, c'est la liberté à l'intérieur du couple. Quand la vie de l'autre est différente du mien, comment je le vis? toutes ces questions-là, elles sont très importantes pour susciter le dialogue entre eux. En fait. C'est surtout ça qui est fondamental. Comment acquérir assez d'autonomie par rapport à nos parents pour choisir en fonction des priorités de notre couple ? Pouvons-nous parler de nos deux familles librement et sans se blesser ? Cette question, plusieurs fois, dans plusieurs groupes, ça, chez certains, ça a suscité des choses très douloureuses. Parce que difficulté de vie avec les familles, non-acceptation d'un des conjoints par la famille de l'autre. Voilà, donc, de quelle liberté financière je dispose et comment je la gère en couple ? Le lien entre l'argent, la liberté, les pressions qu'on peut avoir dues à l'argent, l'un vis-à-vis de l'autre. Comment je pense possible de concilier la liberté de l'autre, ses choix professionnels, ses loisirs, ses liens familiaux et amicaux avec les miens ?
Voilà, vous le sentez, derrière le mot liberté, on met en fait deux mots. On met liberté et altérité. Altérité, c'est, on va en reparler un petit peu plus, mais c'est vrai que Muriel le disait, on leur dit qu'on se marie parce qu'on s'aime, mais on se marie surtout pour s'aimer, donc pour démarrer un parcours, démarrer un chemin, construire un chemin dans lequel chacun doit trouver son espace de vie et sa liberté propre. On entend trop souvent des expressions sur le mariage, tu t'es casé, ou il a fait une fin, tant qu'on regarde le mariage comme ça, on n'est absolument pas dans la vision chrétienne du mariage. Le mariage est le lieu, normalement, du plein épanouissement de chacun des membres du couple. Il doit être vécu comme ça. Alors, du coup, dans ce que Muriel évoquait tout à l'heure sur le moment d'un choix, d'une décision prise, c'est un élément fondamental sur lequel on s'accroche et on part souvent sur une réflexion avec eux sur, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer ? Vous dites que vous vous aimez, mais en français, le mot aimer, c'est un mot valise. On aime les épinards, on aime un bon film, on aime son conjoint, on utilise exactement le même mot. Quand vous vous dites je t'aime, ça veut dire quoi, très concrètement ? Et on passe un petit peu de temps à leur dire que, par exemple, en grec, puisque c'était la langue de l'Évangile, il y a trois mots pour dire aimer. Il y en a un qui est philos. Philos, c'est l'amitié, j'aime bien, j'ai du goût pour ça. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse et tout. Bon, c'est une manière d'aimer. Le deuxième, c'est eros. J'ai du désir, j'ai de l'attirance, j'ai de l'attraction pour ça. Tout ça, ils le comprennent bien. Et le troisième, c'est agapé. Et agapé, c'est le don gratuit, c'est le choix d'aimer totalement, librement, sans attente de contrepartie. Et on leur dit, le mot aimer, dans le sens où Jésus l'utilise et dans le sens où on l'entend, nous, chrétiens, c'est ce troisième terme-là. C'est l'interrogation que fait Jésus à Pierre. Et à chaque fois, il utilise agapé, Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre, il répond, philos, je t'aime bien. Et Jésus recommence et il répond à nouveau philos. Puis la troisième fois, Jésus se met à son niveau et dit philos lui aussi pour aller rejoindre Pierre. Mais n'empêche que sa question, c'est m'aimes-tu d'un don gratuit, d'un don total ? Et ce mot-là, il est très important parce que si les fiancés ont conscience que l'amour dont on parle relève aussi d'un choix d'aimer et pas seulement d'une attirance et de goût partagé en commun, c'est très bien. L'attirance, tout ce qui peut les unir, c'est parfait. On souligne la beauté que ça. Mais s'il n'y a pas ce choix d'aimer, cette décision libre d'aimer, l'attirance, elle va bouger. L'attraction aussi. Les goûts, pas forcément. Ils peuvent bouger aussi. Donc, on construit un peu sur du sable. Alors que si on construit sur un choix d'aimer, une décision d'aimer, à partir de là, on sait qu'on s'appuie sur quelque chose de consistant. J'ai la parole de l'autre et il a pris effectivement une décision. C'est pour ça que cette question, est-ce qu'il y a un jour où vous avez dit que vous vouliez vous marier, c'est quand même important. Est-ce qu'il y a eu un vrai choix ? Et donc, on les aide à réfléchir dans ce sens-là, de façon à l'intérieur de ce choix, j'ai pris totalement ma décision de t'aimer pour toi et puis gratuitement, sans attendre de retour. Je ne t'aime pas parce que j'aime bien te voir m'aimer. Souvent, c'est ça. Hein. Il y a un côté un peu nombriliste dans l'amour. C'est quand même très valorisant de se sentir aimé par l'autre. Mais on aime tant que l'autre aime. Ça aussi, ça va durer éventuellement pas aussi longtemps que les contributions. Alors que l'amour gratuit, cette décision d'aimer, là-dessus, on peut construire un couple qui va pouvoir vivre au grand air, prendre de l'oxygène, prendre éventuellement des risques dans tous les niveaux, professionnels, engagements de toutes sortes, parce qu'il s'appuie sur une clé de voûte qu'on sait solide, à partir de laquelle on acquiert cette liberté. La liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on a en claquant des doigts, c'est quelque chose qu'on acquiert à partir du moment où on se donne les moyens de l'avoir. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, là-dessus, on s'appuie donc rapidement, comme on le fait sur chacun des thèmes, sur des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et alors, on aime bien prendre, moi j'avoue que c'est un texte qui me touche beaucoup, on aime bien prendre le texte d'Osée. Bah, tu peux nous lire un petit bout de ce texte-là?
Oui. C'est Osée 2, enfin, il y a plusieurs versets. Accusez votre mère. Donc, Osée, il compare, comme beaucoup de donc Israël, la relation entre Israël et Dieu, en relation entre un homme et une femme. Accusez votre mère, accusez-la, car elle n'est plus ma femme, et moi je ne suis plus son mari. Qu'elle écarte de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabille toute nue, je l'expose comme au jour de sa naissance. Je la rends pareille au désert. Je la réduis en terre aride et je la fais mourir de soif.
Vous voyez un peu la promesse qui est faite là par.
Il continue en disant, c'est pourquoi je vais obstruer son chemin avec des ronces, le barrer d'une barrière. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Donc, c'est vraiment la femme. Il l'a trompé, il l'enferme.
Il la met en prison.
Le contraire de la liberté. Et tout d'un coup...
C'est dans le même texte. Hein.
Tout d'un coup, c'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai du Val d'Accor la porte de l'espérance. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur.
Voilà, c'est les deux versants que le prophète Osée évoque en disant Dieu, il prête à Dieu la volonté pas de se venger, mais enfin quelque part de punir le peuple qui l'a trahi. Bon. Et puis non, il dit non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. C'est pas sa manière de penser, d'agir. En fait, Dieu va le reconquérir en parlant à son cœur, donc en pleine liberté. Et Dieu ne veut pas d'une personne qui soit croyante entre guillemets. Enfin, c'était pas le mot à l'époque, mais qui ait une forme de foi par contrainte, par fil barbelé, par quoi que ce soit. L'amour de Dieu est donné et reçu en pleine liberté, toujours. Et dans le couple, c'est pareil.
Et on prend aussi de temps en temps le texte de l'Exode qui commence toujours « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage » avant de donner les 10 commandements. La condition pour faire alliance avec Dieu, c'est d'être libre.
On va fêter ça avec la traversée de la mer Rouge dans très peu de temps, la semaine prochaine. Mais c'est vrai que l'alliance n'est donnée, la première alliance n'est donnée qu'à un peuple libéré. Et puis, sur l'altérité aussi, on insiste un peu en disant on est invité à faire que l'autre grandisse et s'épanouisse, et chaque conjoint a pour mission de prendre soin de l'autre de façon à l'aider dans ce plein épanouissement. Et certainement pas à ce que les deux soient pareils et pensent pareil et finissent par gommer leurs différences. Et là-dessus, on s'appuie sur Babel, qui est un texte qui les interpelle toujours un peu. Tu nous donnes un petit bout.
Toute la terre avait alors le même langage et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie Ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et de bitume, de mortier, et ils dirent « Allons, bâtissons une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous travaillerons à notre renommée pour n'être pas dispersés sur toute la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit « Ils sont un seul peuple, ils ont tous le même langage. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Eh bien, descendons, embrouillons leur langage, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Et de là, le Seigneur les dispersa sur toute l'étendue de la terre.
Alors, c'est un texte qui est un peu choquant parce qu'on prête à Dieu des sentiments bons pour son peuple. Or là, ça semble se passer bien et il vient semer la pagaille. Donc, on se dit, c'est quoi ce Dieu qui est méchant là tout d'un coup? Il est méchant, sauf si on commence à comprendre que bah, Dieu, il veut pas qu'on parle tous la même langue et qu'on soit forcément attelé au même projet et qu'on soit une armée de clones tous pareils et ainsi de suite. Il nous a créés dans une diversité. Il a créé chaque membre du couple dans sa diversité. Cette diversité, c'est sa richesse. Et on n'est pas appelé à ce qu'il y ait une domination de l'un sur l'autre, de l'un par l'autre, mais on est appelé à aider l'autre à grandir dans cette différence-là aussi. C'est parfois un peu compliqué d'être différent, parce que quand on ne pense pas exactement de la même manière, ben il va falloir se parler pour qu'on se comprenne. Ça ne vient pas de façon forcément toujours instantanée, mais c'est cette liberté d'être soi-même qui est quand même aussi au cœur de la liberté auquel le couple s'engage lorsqu'il décide de se marier, qu'il va dire « je me marie librement et sans contrainte ». Ce n'est pas seulement la liberté des parents, de ci, de ça, de personnes qui auraient voulu qu'ils se marient. On n'est plus dans les mariages arrangés déjà depuis quand même un petit paquet de temps, encore que ça existe peut-être à droite ou à gauche. Mais non, là maintenant, c'est la liberté de l'un par rapport à l'autre et la liberté d'aimer dans ce choix d'aimer. Ça va ? Voilà, voilà, ouais, non, on va passer, je pense, la suite après, parce que sinon, on prend trop de temps. On ne tiendra plus. Non. Il y a d'autres textes, effectivement, sur lesquels on s'appuie sur Saint Paul aux Galates. Si le Christ vous a libéré, c'est pour que vous soyez vraiment libre et pas pour retomber dans l'esclavage du péché. Bon,
c'est... Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'on va mettre, on a un fichier
vous aurez tout ça.
Avec tous les textes bibliques qu'on prend d'habitude. Et aussi avec les paroles du rituel.
Et vous aurez les questionnaires qu'on utilise aussi. Enfin, on partagera tous nos petits outils.
Les questionnaires dont j'ai parlé tout à l'heure, on vous donnera aussi. Alors,
on passe à la fidélité.
À la fidélité.
Allez, vas-y.
Donc, les questions pour démarrer. Que dit-on autour de vous à propos de l'amour, du mariage, du bonheur et de la fidélité? Quelles images sur la fidélité véhiculent la société? Et vous, que dites-vous? Alors, on sait que dans la société, les valeurs de fidélité sont toujours en tension avec les valeurs d'authenticité, pardon, de sincérité, d'épanouissement personnel. Souvent, sont prioritaires. Le nombre de gens qui disent « Mon amour n'était plus authentique, donc ben, je m'en vais. »
Je ne l'aimais plus, je m'en vais. Ou elle ne m'aimait plus, je la quitte.
Voilà, donc c'est essayer de... qui se disent tout ça. Éventuellement, quelles sont vos peurs? La durée, la routine ou l'ennui? Le sacrifice de mon épanouissement personnel, ce que je disais tout à l'heure. La durée, la routine, tout ça, on est un peu dans une société du zapping, donc c'est pour eux, c'est... Au-delà de la fidélité sexuelle, avez-vous réfléchi à la façon d'être fidèle à l'autre? Alors là, c'est souvent une réflexion qu'ils n'ont pas souvent eue. Comment est-ce que dans la vie de tous les jours, je peux être fidèle à l'autre? À quoi devons-nous faire attention dans notre couple? Quel temps pensons-nous lui donner au milieu de toutes nos obligations?
Voilà, donc il phosphore autour de ces questions-là. Et c'est vrai que quand on évoque le mot fidélité, pour eux, dans leur tête, c'est fidélité sexuelle du couple, c'est pas aller voir ailleurs. Et ils sont, en règle générale, assez loin d'imaginer tous les aspects de la fidélité. Et on essaie de leur expliquer que l'infidélité sexuelle est bien souvent que la concrétisation ou la traduction de plein d'autres formes d'infidélité qui ont eu lieu avant et dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, on va creuser sur cette notion de fidélité. C'est fidèle à quoi, déjà? À quoi suis-je appelé à être fidèle? La clé de voûte, c'est comme tout à l'heure, c'est fidèle à la parole donnée. C'est fidèle à l'engagement que j'ai pris. Si j'ai jamais pris d'engagement, je ne vois pas très bien à quelle référence, avec quelle référence me situer pour parler de fidélité. Ou alors, il n'y aura que la fidélité sexuelle, entre guillemets, je n'ai pas le droit d'aller voir ailleurs. C'est une manière complètement trompeuse d'aborder le sujet. Si on ne rentre pas dans ce vrai sujet de la fidélité, est-ce que je suis fidèle à l'amour que je t'ai promis, à l'engagement que j'ai pris, à ma capacité à t'aider à grandir et tout, est-ce que je suis fidèle à ça? Oui, non. Et si la réponse, c'est oui, la fidélité sexuelle, elle pose même plus de questions, ou presque plus. Donc, on prend le problème à l'envers si on le prend strictement par la question de la fidélité sexuelle. Il faut le prendre par l'autre bout. La fidélité, c'est d'abord cette fidélité à la parole donnée. Et là-dessus, il y a des textes. Ça veut dire qu'il faut prendre soin de son amour, hein, et que la dernière question, quelle attention on se porte, quel temps on prend, c'est ça, c'est quel soin on prend de notre amour, comment on fait pour se parler en vérité profondément. Il y a tellement de sujets du quotidien qui prennent toute la place de la communication que très souvent, les sujets de fond, on ne les aborde pas. Donc, quel temps on se donne pour se parler au-delà de qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir, quoi. Et trop souvent, ce temps-là, il n'existe plus. Ce temps-là, il n'existe plus. Alors, on s'appuie sur pas mal de choses là aussi. La décision de prendre soin de son amour, il y a Mère Teresa qui a écrit un très, très beau texte.
Vous n'imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-elle si ce n'est pas par l'apport continuel de petites gouttes d'huile? S'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière. Et du coup, dira « Je ne te connais pas ». Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes? Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours. La joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres. Notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. Voilà les véritables gouttes d'amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. Ne cherchez donc pas Jésus au loin, il n'est pas que là-bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez.
Voilà, toute cette succession de petites gouttes d'huile qui jour après jour, entretient le sentiment, la réalité d'un amour vivant et en même temps la fidélité à cet amour. On passe un peu de temps là-dessus et c'est vrai qu'en règle générale, ce texte de Mère Teresa les touche beaucoup parce qu'en fait, il est très simple. Hein, c'est pas un texte théologique compliqué. Il rentre là-dedans extrêmement vite. C'est-à-dire, vous ne méprenez pas oser la Tour de Babel et tous les autres textes qu'on utilise, qui ont l'air des textes difficiles, je peux vous garantir qu'ils les reçoivent avec une fraîcheur extraordinaire. Hein. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a besoin d'être théologien pour comprendre l'Écriture. Et l'Écriture, elle parle à chacun aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser l'Écriture. Au contraire, on la rend vivante. Et quelque part, ça transforme un petit peu leur regard.
Et notre expérience, c'est que souvent, les gens très loin de la foi, et particulièrement les non-baptisés, ont vraiment des paroles, mais de vérité et extraordinaires quand on leur demande
comment vous recevez
ce texte-là. Qu'est-ce qui vous a marqué?
Moi, ça me fait penser à chaque fois à la parole de Jésus. Béni sois-tu, Père, tu as révélé ta parole au tout petit, alors qu'elle était plus ou moins cachée aux savants. Donc, c'est la fraîcheur du cœur qui permet d'accueillir cette parole-là. Et on insiste après sur la fidélité qui crée, qui génère effectivement une force au sein du couple. C'est-à-dire que si je suis certain de la parole donnée par l'autre, si je suis certain de sa fidélité à cette parole, à partir de là, je peux entreprendre, je peux faire tout un tas de choses et accepter que mon couple vive au grand air et prenne des risques. Vous avez beaucoup de couples dans lesquels il n'y a jamais de scène de ménage. Parce qu'on n'ose pas ou on ne peut pas. Parce qu'on sait très bien que si on rentre là-dedans, attention, danger, est-ce que le couple va survivre ? C'est-à-dire qu'il y a tellement de trouilles, on n'ose plus s'exprimer, on n'ose plus vraiment être soi-même, on n'ose plus confronter, parce qu'on repose sur quelque chose d'extrêmement fragile et ténu. Alors que si on est certain de cet amour donné, et si on est certain que l'autre va être fidèle à cette parole, eh ben on peut aller chercher de temps en temps. C'est pas un drame en soi. C'est s'il y a le respect derrière, s'il y a l'écoute derrière, et on peut même faire le constat. Il y a un psychologue qui disait les couples heureux sont pas ceux qui sont d'accord sur tout. Ce sont ceux qui arrivent parfaitement à vivre sans être d'accord sur tout. Vouloir toujours être d'accord, c'est quelque part un non-sens. Hein. Il faut être d'accord sur l'essentiel quand même. Faut que les fondamentaux soient bien là. Mais après, qu'il y ait des divergences de vues, on va rentrer dans les élections, hein, tu votes blanc, moi je vote rouge, à la limite, pourquoi pas, ça te regarde. Attends, mais si, on n'est pas obligé de penser pareil exactement dans le couple. Et si on arrive à vivre justement en n'étant pas à l'identique, on peut tout à fait surpasser, dépasser ça et s'enrichir de ça. Donc la fidélité à faire grandir l'autre, à l'aider à être lui-même, elle est essentielle pour que le couple ne soit pas vécu comme un enfermement et un carcan. Si quelque part on n'ose plus être soi-même et dans la durée, on va se scléroser, puis un jour on finira par en avoir marre. Quoi. Ça va, je suis clair ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. On peut avoir des opinions différentes. Alors là-dessus, on s'appuie aussi sur... parce que ça sera important pour après, on s'appuie sur la fidélité de l'alliance aussi. Je vais un tout petit peu trop vite. On leur dit aussi la fidélité, ce mot-là, c'est celui qui vous définit déjà. Les fiancés, fiance, c'est fiance, confiance, c'est le même mot. Fiance, confiance, foi, fidèle, tout ça, c'est le même mot, c'est la même racine. Donc, les fiancés sont des personnes qui se font confiance et confiance dans la fidélité de l'autre, dans la parole de l'autre, ainsi de suite. Donc, prendre conscience de ça, c'est aussi une manière de mieux le comprendre, je crois, de pouvoir le traduire.
Chaque fois, on essaye aussi de leur donner des exemples dans notre vie.
Oui, alors ouais, ça c'est important à dire. On part jamais de nos vies. Bon, c'est pas intéressant nos vies. Ce qui est intéressant, c'est la leur, et c'est la parole de Dieu, comment elle vient les rejoindre, comment elle vient les toucher. De temps en temps, en contrepoint, pour illustrer un aspect, on peut donner un point concret de traduction dans la vie de tous les jours, comment ça peut se vivre.
Dans notre vie, quand même.
En partant de nos vies, on ne peut pas partir de la vie des autres. Mais il ne s'agit pas de... On n'est pas dans une discussion... j'allais dire mondaine, ce n'est pas le mot juste, mais on n'est pas dans une discussion amicale et tout. Bien sûr qu'on essaie d'être aussi amical que possible, mais on est là surtout pour transmettre cette bonne nouvelle de l'enracinement dans la foi chrétienne. Après, on peut l'illustrer avec éventuellement un propos ou autre qu'on a vécu personnellement, mais c'est pas ça qui est premier. Ce qui est premier, c'est leur parole, leur réflexion et la parole de Dieu. Et puis après, on peut rentrer sur des points d'illustration qui rendent ça un petit peu plus concret. Mais on aime bien procéder de cette manière-là et pas à l'envers. Alors dans les paroles un peu fondamentales de construction là-dessus, il y a Isaïe. Isaïe, dans mon éternelle fidélité, peux le lire, vas-y.
Là, on repart sur la fidélité de Dieu.
Hein. Oui, sur la fidélité de Dieu,
Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. C'était dans Isaïe 54. Dans Isaïe 49, un texte qui est plus connu, Jérusalem disait « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, j'ai toujours tes remparts devant mes yeux.
Et cette fidélité, elle va trouver son point culminant dans la fidélité de Jésus à son Père. C'est les dernières paroles du Christ.
Allant un peu plus loin, c'est pas à Gethsémani, donc allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. »
Voilà, c'est l'engagement.
La fidélité à son Père jusqu'au bout.
C'est l'engagement de fidélité extrême. Bon, alors, on n'est pas Jésus, hein, mais bon, c'est pour montrer que Jésus est la figure qui nous guide quand même dans tous ces points d'ancrage dont on est en train de parler. Qui ne sont pas des inventions, un beau jour, l'Église a décrété ci ou ça. Ce sont des paroles de vie, ce sont des paroles d'amour. Alors, deuxième gros thème, après on aborde le mot le plus long.
Non, on fait la fidélité.
Ah oui, non, pardon, non, j'inverse. On aborde la fécondité. La fécondité. Alors, vas-y Muriel.
Alors, la fécondité. On vous a préparé des questions, comme vous pouvez voir, là, comme pour les autres piliers. Mais nous,
on fait pas comme ça.
On a préparé en fait un QCM sur la fécondité. Pour vous, c'est quoi la fécondité? Et on leur demande, on va vous communiquer hein, ce QCM bien sûr. On leur demande de cocher les trois définitions de la fidélité qui leur correspondent.
Trois propositions.
Les trois propositions qui leur correspondent de mieux. Et les trois qui leur semblent le plus éloignés de ce qu'elles pensent. Pareil, ils font ça chacun dans leur coin et ensuite ils échangent avec leur conjoint. Ensuite, en grand groupe, on leur demande ce que chacun a choqué. Ils ont fait des petites croix différentes selon si c'est positif ou si c'est négatif. Et ensuite de ça, donc vient le temps d'échange. Mais ça leur permet aussi de voir qu'ils peuvent avoir des idées différentes par rapport à la fécondité. Alors, les questions qu'on vous propose, sinon, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être fécond? Enfant, épanouissement du conjoint, donner du bonheur aux autres, être efficace.
Ça fait partie des questions qui sont dans la grille, tout ça.
Oui. Pourquoi est-ce que je désire un enfant? Pour moi, pour lui, pour mes parents, pour la société. Donc, c'est un moyen pour eux d'échanger sur leur désir d'enfant, s'interroger mutuellement. Et si l'enfant tarde à venir? Donc, souvent, on a vu ça particulièrement avec une de nos filles. Elle avait décidé que l'enfant, ça serait à tel, vraiment quasiment au mois près.
Tel âge.
À tel âge, etc. Mais pour un dixième des couples, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, c'est important qu'ils puissent se dire déjà des choses par rapport à ça, en espérant que ça ne leur arrive pas. Mais... Bon, on a très souvent des couples aussi qui ont déjà des enfants. Hein.
Oui. On est allé jusqu'à un couple qui en avait sept, ensemble. Un seul couple, un seul mariage. Bon.
Voilà, donc pour ceux qui ont des enfants, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie de couple? Ça leur permettra de raconter aux autres après qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Ensuite, une question sur la régulation des naissances. Paternité, maternité responsable, parlons-nous de ces sujets ensemble? Ou est-ce simplement une affaire de femme? C'est l'occasion de s'en parler parce que peut-être qu'ils ne s'en sont jamais parlé. En plus des enfants, à quelle fécondité je me sens appelée personnellement et en couple? Souvent, c'est la découverte que la fécondité, c'est autre chose que d'avoir des enfants. C'est plus que d'avoir des enfants, pardon.
Alors, sur toutes ces questions, à chaque fois, il y a une diversité de réponses et ils partagent. Souvent, ils se les sont, comme dit Muriel, ils ne se sont pas posé les questions du moins de cette manière-là. Et on voit tout. Soit les grilles de réponses sont très différentes entre lui et elle, elle et lui. Parfois, ils se rejoignent vraiment beaucoup plus. Dans tous les cas, c'est un sujet de discussion. Et dans la très grande majorité des cas, ils n'ont regardé l'aspect fécondité que sous l'angle avoir des enfants ou non. Point barre. Or, bien évidemment, c'est la fécondité première du couple, mais ce n'est pas sa seule fécondité. Sinon, un couple qui ne pourrait pas avoir d'enfants pourrait déclarer stérile au sens plein, ce qui est une aberration. Donc, on essaie de les amener à réfléchir à leur fécondité bien au-delà de ça. Et on s'appuie sur un certain nombre de textes là aussi sur le comment être fécond. Saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortio, il en parle avec ces mots-là. La famille reçoit mission de garder, révéler et communiquer l'amour. Bon, si on prend ça au pied de la lettre, c'est bien au-delà du seul fait d'avoir des enfants. C'est sûr que les enfants sont normalement une concrétisation de l'amour, mais pas la seule, mais pas la seule. Bon, et il est important que petit à petit, ils comprennent que la fécondité du mariage, ça va au-delà. Alors, on va se recouper forcément avec les deux autres sujets, fidélité et liberté, à savoir que si on est dans un couple suffisamment solide sur ses bases, avec suffisamment de confiance l'un dans l'autre, on peut avoir une fécondité infiniment plus grande dans la capacité à s'engager à droite à gauche. Alors que si on a le sentiment d'être dans la tension fragile, entre guillemets, la frilosité va nous amener à un repli sur soi et à une fécondité infiniment moindre. C'est important pour, je pense, de faire bien comprendre que tout ça se tient, que ça constitue un ensemble. Il ne faut pas les prendre un par un, les piliers. Ils sont en écho les uns avec les autres, toujours, toujours. Et la fécondité est le résultat, bien souvent, d'un couple solide, solide et qui est sûr de la fidélité de la parole donnée. Après, à chacun d'inventer sa fécondité. Elle peut se traduire. Et surtout, la fécondité n'est pas la même à toutes les époques de la vie. Il y a des moments où on est plus à même de s'engager dans telle ou telle chose. Il y a un moment où les enfants prennent vraiment à peu près toute l'énergie, ou presque beaucoup. Et puis, il y a un moment où on se retrouve en capacité de faire autre chose, de réfléchir à X formes d'engagement associatif, civique, peu importe, hein, tous les sujets sont bons. Mais si on dit que se marier, c'est fonder un lieu où la vie est donnée. La vie est donnée, c'est la vie au sens large, au sens plein. Ce n'est pas une petite vie. En tant que chrétien, on n'est pas appelé à une vie détriquée. On est appelé à une vie respirante, nourrie et qui, quelque part, donne envie. Enfin, c'est quand on dit que, quand notre cher pape dit la famille reçoit mission de révéler et communiquer l'amour. Ça se fait pas quand on reste dans son coin, quoi. Il faut bien arriver à les amener à comprendre ça. Et ça, à chaque fois, mais c'est à peu près à chaque coup, hein, quand on regarde la grille de questions qu'ils ont cochées, la fécondité, c'est toujours relié aux enfants et que aux enfants, que aux enfants. Bon, alors après, le choix des méthodes de régulation de naissance et autres, on n'en parle honnêtement pas beaucoup. Bon, c'est un vrai sujet, mais c'est vrai qu'ils sont en couple déjà depuis très longtemps. Bon, l'intérêt, c'est de savoir si c'est aussi un sujet pour eux. C'est-à-dire, est-ce que on est dans le non-dit là, ou si c'est quelque chose qui est mis sur la table, dont ils se parlent, qu'ils discutent ensemble, qui n'est pas que une affaire de femme, qui est un choix de couple, qui est bon, ça fait partie des. Là, pour le coup, on ne rentre pas trop, trop, trop dans une recherche d'intimité. Il y a juste des questions. C'est eux qui ont les réponses.
Dans notre parcours préparation mariage qu'on avait fait avec le diocèse de Versailles, il y avait une rencontre sur la sexualité
Une rencontre spécifique qui s'appelait
spécifique.
Un corps pour aimer. Bon, et là, on rentrait beaucoup plus dans l'approfondissement. Quand on présente les quatre piliers comme ça, c'est déjà dense, quoi. On peut en parler, s'il y a des questions, on en parle, mais on est plus en train de les interroger sur la façon dont ils abordent ce sujet-là que de véritablement donner des réponses. On a peut-être tort, mais bon, on fonctionne comme ça. Alors, sinon, on s'appuie là aussi, on s'appuie toujours sur des textes, on s'appuie sur la parabole des talents, forcément, elle vient toute seule. Cette parabole des talents, les talents qu'on a reçus, est-ce qu'on les fait fructifier? Est-ce que j'ai conscience déjà de mes talents? Est-ce que je sais quelque part là où je peux donner de la valeur à ceux qui m'environnent, tout près, mon conjoint, mes enfants, mais au-delà, dans tous les cas, je suis appelé à faire fructifier tous ces dons que j'ai reçus. Donc, c'est clairement l'Évangile qui le dit. On s'appuie aussi, alors pas souvent, mais bon, moi j'aime bien quand même, dans les béatitudes, quand vous regardez les béatitudes chez Matthieu, il n'y en a aucune qui promette d'être heureux seul dans son coin. Le bonheur n'existe que si je pleure, si j'ai soif de justice, ça veut dire si je me situe par rapport aux autres, toujours, toujours. Il n'y en a aucune qui me promette un bonheur égoïste, personnel, que j'aurais acquis je ne sais pas trop comment. Le bonheur, il est situé à peu près toujours dans une relation, dans l'ensemble des béatitudes. Donc, on voit bien que heureux, bienheureux, heureux êtes-vous aussi. C'est le bonheur passe par ça. On s'appuie aussi sur la parabole du semeur. Alors, on l'a entendu 10 000 fois, cette parabole du semeur. Mais elle est quand même très, très contemporaine. Tu peux nous en lire un petit bout?
Donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur.
C'est la deuxième partie, hein, c'est quand Jésus explique à ses disciples ce qu'il a voulu dire.
Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un.
Voilà, dans cette fécondité, il y a une interrogation sur c'est quoi mon terrain. Et je crois qu'on a un peu les quatre terrains au fond de nous. Il y a des moments où on n'est pas très réceptif, voire pas du tout. Il y a des moments où on zappe facilement pour passer à autre chose, où c'est l'immédiateté qui prime un peu. Il y a des moments où on est bien dedans, mais au milieu de 50 000 autres choses à faire, toutes plus importantes forcément les unes que les autres. Bon. Et puis, il y a quelques moments où on est réellement disponible. Donc là l'interrogation, c'est quelle est mon ouverture de cœur, quelle est ma capacité à entendre les messages qui me sont donnés, qui sont donnés tous les jours à travers mes rencontres, à travers tout le monde et tout, et quelle est ma disponibilité en face de ça. Bon, c'est... je peux toujours dire j'ai pas le temps. Ouais, c'est vrai, ça peut être totalement vrai d'ailleurs. Mais en fait, j'aime pas d'ailleurs cette expression j'ai pas le temps. J'aime mieux l'expression je ne prends pas le temps, parce qu'on a tous le même temps. Les journées, elles font 24 heures. Après, à l'intérieur, on fait des choix. Je prends le temps pour ci ou je prends le temps pour ça. Mais au moins, on sait qu'on a fait un choix. Alors que sinon, il y a des trucs qu'on choisit pas, mais on doit le faire dans tous les cas. Mais c'est qu'est-ce qui m'encombre? Qu'est-ce qui vient m'empêcher d'être vraiment fécond? C'est-à-dire que, est-ce que dans mes occupations, elles ont une réelle fécondité, ou est-ce que je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur ou je sais pas quoi, derrière à regarder la télé ou je sais pas. Et là, ma fécondité, j'apprends peut-être des trucs, ça c'est sûr, mais est-ce que j'ai une vraie fécondité à travers ça? Je peux me poser la question. Ça veut pas dire que ce soit pas des mots. Hein?
Qu'est-ce que tu dis? La fécondité du couple.
Oui. C'est que des interrogations. Là encore, on n'a pas les réponses, mais la fécondité, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui est une attitude du cœur, qui est une ouverture à l'autre, et certainement pas sur un repli sur soi, certainement pas sur une frilosité. En gros, on ne peut pas être chrétien dans son coin et puis dire « bon, je suis chrétien pour moi-même », et puis ça ne regarde personne. Il y a des tas de textes qui sont d'ailleurs choisis par les couples souvent, hein, sur le sel de la terre, la lumière du monde, et ainsi de suite, qui montrent bien la place que doit occuper le couple pour que son amour rayonne. Ils vont le dire d'ailleurs le jour de leur mariage à travers le rituel.
Oui, particulièrement. Êtes-vous prêt, donc le prêtre leur demande, ça c'est le dialogue initial, êtes-vous prêt à accueillir les enfants de Dieu que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi du Christ, de l'Église, pardon? Et ensuite il leur demande, êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Et ensuite il y a un très beau passage de la bénédiction nuptiale numéro 5. Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie, qu'ils les gardent attentifs aux appels de leurs frères et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s'appuyant sur leur amour, avec la force de l'Esprit-Saint, qu'ils prennent une part active à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel et soient ainsi fidèles à leur vocation humaine et chrétienne.
C'est dit beaucoup, hein, c'est dit presque tout, mais si on ne souligne pas ces paroles, ils les entendront, ça va passer très très vite, hein. Ils ne se souviendront plus de ce qu'ils ont dit et de ce à quoi ils se sont engagés. Donc c'est important, quand on peut réfléchir avec eux, de leur dire, vous allez dire ça, est-ce que vous avez véritablement bien mesuré la portée, les propos que vous allez échanger?
La bénédiction du ciel, c'est le prêtre qui va
le... Oui, c'est vrai, mais on va dire ça tout. On a un petit retour. Et alors, on arrive au gros mot dont je parlais tout à l'heure, j'ai voulu le prendre un petit peu trop tôt, l'indissolubilité. Déjà, il y en a un certain nombre, ils nous disent, mais ça veut dire quoi? Donc, déjà, parfois, il faut le traduire un petit peu, ce mot-là.
Donc, on leur dit pour toujours.
Alors, vas-y.
Alors, la première question qu'on leur pose, c'est pour eux, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça leur paraît accessible? Pour eux, souvent, comme disait Hervé, c'est un gros mot que souvent, ils ne sont jamais utilisés. Hein. Qu'est-ce qui, dans mon amour pour mon futur conjoint, me paraît indestructible, me paraît fragile et me paraît précieux?
Ça, c'est dans les questions qu'on leur pose.
Ça, c'est une question qu'en général ne remonte pas un grand groupe, parce que c'est des choses très personnelles. Ouais. Mais qu'ils arrivent à se dire ça, c'est... En fait, beaucoup ne se sont jamais dit. Hein. Qu'est-ce qui me paraît fragile dans notre relation?
Et précieux.
Et qu'est-ce qui me paraît précieux? Qu'est-ce qui ne changera jamais? Il peut se dire des choses très très belles. Quand on faisait des parcours des accompagnements individuels, il nous le disait beaucoup plus facilement, mais c'est sûr qu'en grand groupe, ils ne peuvent pas le dire, ça.
Oui.
Quelle place tient Dieu dans cet engagement à l'indissolubilité? Concrètement, comment est-ce que j'envisage de le rendre présent dans la vie de mon couple? C'est une question, et souvent, pareil, la première fois qu'on leur pose. La décision de se marier à l'église, elle n'a pas toujours ça en arrière-plan. Et ensuite, une question sur le pardon. Et le pardon entre nous, est-ce que je le juge difficile, essentiel pour tenir cet engagement à l'indissolubilité? Quelle place tient-il déjà dans notre couple?
Alors, généralement, c'est le sujet sur lequel il rentre un peu sur la pointe des pieds en disant, mais comment on va pouvoir décréter que notre couple est indissoluble? Par quelle baguette magique, avec quelle baguette magique on va pouvoir se dire, ben, notre couple, il est indissoluble. On les laisse un peu, j'allais dire, on les laisse un peu patauger, c'est pas le mot juste, mais on les laisse défricher tout ce qu'il y a autour de ce mot indissolubilité pour voir dans quelle direction ils vont. Et on arrive, en collectant un petit peu tout ce qu'ils ont pu échanger, à leur montrer que l'indissolubilité, c'est pas un décret, c'est un résultat, c'est une conséquence. Si la liberté est bel et bien là, si la décision d'aimer a été prise, si on est fidèle à cet engagement-là, et si on assure sa vie à l'intérieur du monde avec une réelle fécondité, le couple sera indissoluble. C'est plutôt un constat, c'est plutôt une conclusion. Si je décrète mon couple est indissoluble, mais que je fais rien sur les trois autres éléments qu'on a vus avant, eh ben, j'ai beau l'avoir décrété, il claquera mon couple. C'est à peu près certain. Donc, on passe un petit peu de temps là-dessus. Et surtout, là-dessus, on revient sur le sens du mariage chrétien, sur le fait que, ben, quelque part, on se marie à trois. On met Dieu au milieu de notre couple. Et c'est lui aussi qui apporte une force supplémentaire, extraordinaire, à l'engagement qu'on a pu prendre, parce que c'est en lui qu'on peut se ressourcer, se retrouver, y compris dans les moments où c'est pas génial, bon, dans les moments où c'est difficile. Alors souvent, on prend ce texte de Marc que vous connaissez, la tempête
apaisée.
Apaisée, voilà. Mais bah, ça parle, nous, on est le long de la côte, alors il y en a un certain nombre à qui ça parle, les tempêtes, mais tu nous le dis, enfin le petit bout.
Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, et ils emmènent Jésus dans sa barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent?
Alors ce texte, au début, quand il en première lecture, il se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là, cette histoire de barque et de tempête, hein, bon, pourquoi on nous lit ça maintenant? Et puis, quand on les invite à réfléchir sur les tempêtes qu'on peut parfois traverser dans nos vies, qui viennent chahuter notre barque avec nos peurs dans ces moments de tempête et la façon dont on peut se comporter, ça commence à devenir… Là, il commence à dire, ouais, il y a peut-être un truc à creuser là derrière. Bon, on les amène à comprendre que ce n'est pas les seules capacités techniques qui font que, quelque part, on passe la tempête. Jésus, c'était tout sauf un marin, et par contre, lui, il était avec des marins. C'est les marins qui ont la trouille et pas lui. Donc, on est en situation complètement inversée. C'est peut-être que les marins sont beaucoup plus conscients, mais bon. L'autre lecture qu'on peut avoir là-dessus, c'est, quelque part, soit on fait confiance strictement à nos compétences et à nos forces, soit on fait confiance à l'amour qu'on se porte, à la parole qu'on s'est donnée, à la foi qu'on a engagée. Et cette foi avec Dieu au milieu. Et là, à ce moment-là, on a une bonne chance de passer la barque a une bonne chance de passer les tempêtes. Si on compte que sur nous-mêmes, sans quelque part arriver à se faire, enfin sur nous-mêmes, chacun dans son individualité, pas nous-mêmes à deux, mais si on se dit, attends, notre couple est suffisamment solide pour tenir cette période difficile, pour tenir des moments douloureux, hein. Il y a des histoires dramatiques dans les couples parfois, mais on est assez costaud pour vivre ça. Bon, à ce moment-là, le couple a une chance de tenir, mais si chacun se réfugie à l'intérieur de sa peur et de sa coquille, le couple va éclater.
Et on peut On peut prier Dieu ensemble dans ces cas-là.
Oui, Dieu au milieu, il est au cœur de l'engagement qu'on s'est donné. Donc, quelque part, pouvoir se dire et se le dire ensemble, là, on n'y arrive plus très bien. Seigneur, il faudrait peut-être que tu nous aides un peu parce qu'on n'y voit plus clair du tout. Guide-nous un peu sur ce chemin difficile et tout. Mais on va réaliser que dans cette disposition du cœur, on fait des rencontres avec des gens qui, tout d'un coup, ont une parole qui est quelque part une parole de c'est par tous nos contacts extérieurs que Dieu nous parle aujourd'hui. Donc, cette parole, elle nous est donnée à condition qu'on ait le cœur suffisamment ouvert pour l'entendre. Et la barque, c'est vraiment le chahut dans lequel on se dit, j'ai confiance, aide-moi. Et puis après, je suis à l'écoute de tout ce qui pourra m'être transmis pour arriver à passer tout ça. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a une espèce de disposition à se dire, on peut être chahuté, on peut être remué dans tous les sens. Ça va pas toucher le cœur du cœur. Ça va pas toucher la parole que tu m'as donnée. Ça va pas toucher l'engagement que tu as pris avec moi. Ça va pas toucher mon amour que j'ai pour toi. Donc, avec ça, on a une bonne chance de passer. Bon. Et l'amour, qui dit amour, dit Dieu. Souvent, quand on a des jeunes couples ou des couples plus âgés, mais assez loin de l'Église, Dieu, ça leur paraît parfois un être extrêmement lointain. Bon. Et on leur dit, vous savez, Jean, il a donné la bonne définition. Hein, elle est en trois mots. Dieu est amour. Chaque fois que vous dites le mot amour, vous dites Dieu d'une certaine manière. Quand l'amour est vivant et présent, Dieu est présent. Si vous prenez soin de votre amour, si votre couple est construit véritablement en vérité, sans tricher, dans un amour fort et partagé, Dieu est au milieu. Donc, cherchez pas Dieu très loin, comme disait Mère Teresa, il est tout près de vous. Et quand on raisonne comme ça avec eux, il y a des déclics qui se font. Voilà, Dieu, c'est plus un personnage. Voilà, c'est quand même quelque chose de plus tangible, de plus concret. Ça va? Ça tient encore? Il vient d'avoir marre, hein, non? Alors, on aborde après, là-dessus, on aborde le pardon, parce que dans l'indissolubilité, c'est difficile de la vivre sans prendre cette dimension du pardon. On a toujours des ratés dans toutes nos vies. Il y a toujours des moments où on tient moins bien la route, quoi. Bon, c'est clair. Et si on n'arrive pas à être au clair avec ça, à pouvoir se le dire, à pouvoir demander pardon et être pardonné, on va vivre de plus en plus avec un contentieux qui, au fil des temps, peut finir par devenir une grosse casserole, quoi. Donc, le pardon, c'est pas une manière d'effacer commode, comme on peut parfois l'entendre. C'est une manière de se réconcilier en profondeur. Alors là-dessus, on s'appuie pas mal sur le fils prodigue. Bon, parce que c'est un exemple extraordinaire. Bon, la parabole du fils prodigue, on va pas vous la relire en entier. Elle est très longue. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est étonnante. Elle est étonnante à la fois. Elle est étonnante à plus d'un titre. Le père laisse son fils libre. Il va pas le chercher. Il va aller au-devant de lui au moment où il va le voir revenir. C'est pas pareil. Mais il va pas le chercher là où il était. Or, il sait très bien où il était puisqu'il sait très bien la vie qu'il menait. Donc, il laisse son fils totalement libre. Mais par contre, dès que le fils a pris conscience et que quelque part il est un peu dans cette demande de pardon, le père l'accueille, mais alors sans. Il n'y a même pas, moi je ne serais pas tout à fait comme ça. Bon, attends, t'as bien déconné, bon, j'espère que maintenant ça va te servir de leçon. Non, il n'y a rien de tout ça. Il y a un accueil, il y a à nouveau la remise de l'anneau, l'alliance, la restauration de ce lien, quand même, extraordinaire, et le retour dans une pleine dignité de fils, et n'est pas un fils au rabais, quoi. Et ben, le pardon, quand on explique ça à nos jeunes couples en disant c'est toute cette dimension-là, alors là, ils regardent en disant attends. Pas possible, quoi. C'est au-dessus de nous. C'est bon. N'empêche que la force de ce pardon-là, elle est quand même, elle est dans la restauration réellement. C'est-à-dire que ça, ils le comprennent très très bien. Le pardon blesse pas seulement celui qui a été victime, il blesse aussi celui qui a causé. Celui qui n'a pas demandé pardon. alors qu'il sait très bien qu'il s'est mal comporté, il vit quelque part en lui un mal-être qui ne le quittera jamais et qui ne peut le quitter que dans la reconnaissance de ce qu'il a pu faire de traviole par rapport à l'amour qu'il est censé donner à son conjoint. S'il n'y a pas cette prise de conscience-là, lui-même va comment dire, il sera amputé de quelque chose. Il n'y aura pas de pardon possible puisqu'il n'y a pas de demande de pardon. Il n'y a que Jésus qui, lui, va pardonner sans qu'on lui ait rien demandé. Pardonne-leur, bon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est vrai que normalement, pour qu'il y ait un pardon véritable, dans un couple, il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience, comme celle du fils prodigue. Il faut réaliser que, non, là, je déconne. Je ne mène pas la vie que je dois mener. Je ne suis pas là où je dois être. Je ne me comporte pas comme je devrais. Après, le pardon, il peut être donné, mais ça restaure le fils et le père se retrouve à nouveau, lui aussi, complètement, j'allais dire, reconstitué dans sa vie de père, dans sa paternité. Et je crois que c'est pareil dans chaque couple. C'est celui qui demande pardon, il va, s'il reçoit son pardon, il va être restauré. Mais celui qui donne le pardon va aussi se retrouver dans une forme de... On peut repartir avec ça, on peut revivre. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier. Mais il n'y a plus quelque chose qui me plombe, qui est dans le non-dit. Un couple ne peut pas vivre dans le non-dit. L'amour bannit la crainte et vérité et amour, amour et vérité s'embrassent. On ne peut pas vivre dans un couple si la vérité n'est pas dans le couple. On ne peut pas vivre l'amour, plutôt, si la vérité n'est pas dans le couple. À partir du moment où elle n'est pas exprimée parce qu'on la masque, parce qu'on refuse la prise de conscience et tout, on n'est plus dans un amour vrai. Donc le pardon, il doit venir prendre sa place pour restaurer cet amour vrai et nous permettre de vivre en vérité.
On les invite aussi beaucoup à faire la différence entre l'acte et la personne.
Oui.
L'acte, on n'est pas forcément invité à l'oublier. Hein. Le pardon ne signifie pas du tout l'oubli. Mais par contre, comme disait Hervé, on restaure sa femme ou son mari dans son statut, son vrai statut de femme ou de mari. C'est une différence à faire qui est très importante.
Voilà, c'est tous ces éléments-là qui construisent l'indissolubilité. C'est vrai qu'on a un modèle d'amour inconditionnel dans la personne de Jésus, dans la personne du Christ. Bon, pour autant, cette indissolubilité, elle n'est pas inaccessible. Elle est un résultat. J'allais dire, si on suit l'ordonnance, bon, on n'est pas des médecins, mais si on arrive à être cohérent avec les choix qu'on fait et à mettre en pratique ce dont on a parlé, le résultat est effectivement l'indissolubilité. Donc, on finit nos rencontres avec eux, ils sont assez convaincus en règle générale du fait que, bah, du coup, ouais, c'est pas forcément un rêve, hein, un couple indissoluble qui tient la route pendant des années, des années, des années, et ils comprennent bien qu'il y a des ingrédients pour y parvenir. Donc, du coup, après, on les invite à prendre soin de leur couple. Et à trouver des moyens d'en prendre soin, de chercher comment vous allez vous retrouver régulièrement à travers les moments un peu plus difficiles. Qu'est-ce que vous allez adopter comme bon, alors, pour certains ils ont déjà des pratiques et des idées. Hein. Il y en a qui s'accordent du temps réellement, mais pas tous, hein, loin de là. Voilà, on avait prévu de laisser une demi-heure d'échange, on y arrive à peu près, pour maintenant discuter avec ceux qui sont loin et avec ceux qui sont prêts, et essayer de répondre aux questions, vous partager des expériences que vous avez vécues, des éléments que vous voulez rajouter, qui vous viennent à l'esprit.
Est-ce que vous pouvez nous dire le temps que vous passez avec les fiancés sur les quatre piliers? Et le découpage entre
réflexion
individuelle, groupe et
réflexion séparée. Ouais. En gros, sur chaque pilier, on passe 1h30.
Ouais.
Sur chacun, oui.
On passe le temps pour faire connaissance est assez long, c'est au moins trois quarts d'heure, une heure.
Oui, oui.
Pardon.
Alors, on répète la question. La question, c'est combien de temps passons-nous sur chaque pilier et sur chaque temps à l'intérieur de la réflexion sur un pilier ? Et donc, sur chaque pilier, en gros, on passe une heure et demie qui se décompose grosso modo, il y a 10 minutes à peu près individuelles, chacun dans son coin, par écrit, comme disait Muriel.
Un quart d'heure.
Ouais, 10 minutes, un quart d'heure.
Mais il y a une demi-heure en tout.
Voilà, un quart d'heure, ils partagent à eux deux. Alors, ils peuvent aller marcher, ils font ce qu'ils veulent hein, pour faire ce partage. Il ne faut pas que ce soit trop scolaire et trop fixe. Et puis, le partage en grand groupe, lui, prend... à peu près trois quarts d'heure.
Trois quarts d'heure.
Et le reste, on essaie de les amener à voir, comme on l'a précisé tout à l'heure, que ben, la parole de Dieu vient les rejoindre finalement dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils sont en train d'évoquer, dans ce qu'ils sont en train de dire. Elle n'est pas étrangère à leur vie, cette parole de Dieu, et elle vient rejoindre les propos qu'ils ont déjà pu formuler entre eux. Mais simplement, on les aide à clarifier ça et à prendre conscience qu'elle est actuelle.
En fait, le partage en groupe et le moment où on leur donne un peu des repères et on leur parle de la parole de Dieu, on englobe ça dans un temps ensemble.
Si on devait découper, on dirait qu'il y a une demi-heure, mais dans la pratique, c'est un peu plus lié.
Parce que ça se passe souvent, on les invite à parler et puis nous, on prend la parole. C'est très imbriqué. Hein. C'est pas, on partage, eux ils prennent la parole et puis nous, on parle.
C'est plus interactif.
C'est beaucoup plus interactif.
Et vous les voyez une seule fois ou c'est sur un week-end
ou... Alors, on les voit...
Toute une journée.
Sur les piliers, une fois.
D'accord. Et une journée.
Et on termine, on a la chance d'avoir des prêtres qui acceptent ça, on termine par une Eucharistie. Et au cours duquel, ça dépend du prêtre, parce qu'on fait ça à l'échelle du doyenné, donc on est sur Quiberon, la Trinité, Carnac, Plouarnel. Et donc c'est un des prêtres du doyenné qui vient et il y en a au moins un qui aime bien prendre du temps pour expliquer le sens de la messe, ce qui est bienvenu. Et on invite chaque prêtre qui vient déjà à bénir leur démarche, pas encore leur couple en tant que mariage, mais bénir leur couple et ils sont très sensibles à ça. Mais si vous pouvez finir comme ça des journées par une Eucharistie, c'est super.
Donc,
c'est
une journée, votre opération, ça se résume en une journée.
Il y a un week-end qui est organisé par le père Le Carnac, qui est recteur de Carnac, qui prend tous les fiancés pendant
un week-end.
Un week-end.
Et
le samedi après-midi et dimanche. Quoi.
Et nous, on intervient.
Pardon. Vous intervenez sur les piliers
Non, les piliers, on les voit en une journée, mais on intervient sur une aide à la préparation de leur célébration de mariage pour les aider à trouver le sens, articuler le. Bon, mais ils voient plein d'autres choses dans cette retraite. Et puis, ils ont des entretiens en tête à tête avec le prêtre qui va les marier, toujours.
Oui, en plus. Qu'ils les voient deux ou trois fois.
Mais il y a une bonne articulation à ce niveau-là, parce qu'on se marche pas sur les pieds, on arrive à être à peu près bien articulé. Les piliers, ils nous ont été confiés en disant « débrouillez-vous avec ces quatre piliers, il faut que… »
Il y a une déconnexion.
Il y a une déconnexion. Ah, heureusement que tu es vigilante.
Oui.
Est-ce que ceux qui sont loin ont des questions aussi ? On n'entend rien de ce qui est loin.
Brancher les micros.
Ouais. Tac, tac, tac. Bon.
Moi, j'ai pas de questions, j'ai juste une remarque. Je suis assez touchée par tous les liens que vous faites avec la parole de Dieu. Et je me dis que on est toujours en train de se poser la question de comment proposer la foi et que tous ces liens avec la parole de Dieu. Sont un beau moyen de témoigner de la foi et de les faire rencontrer le Christ, voilà. Permettre cette rencontre avec le Christ.
Oui, mais merci. C'est vrai que nous, on s'est vraiment donné comme positionnement une volonté de faire découvrir la foi, enfin découvrir. C'est montrer qu'ils sont déjà précédés quelque part, que leur amour, ils ont déjà quelque part accueilli un peu de la foi. S'ils ont foi en l'amour, ils ont déjà un peu accueilli un morceau de la foi en eux. Et nous, on est juste là pour les aider à ce que ça se révèle. Encore une fois, on n'est pas des profs, on est là pour les aider à prendre conscience qu'au fond, de leurs aspirations les plus profondes, au fond de leur recherche, pour leur couple, ils rêvent le mieux, hein. Ils rêvent le plus beau possible. Ils savent pas forcément comment s'y prendre, mais c'est clair qu'ils rêvent de ça. Et si on les aide à prendre conscience qu'ils ont dans les mains un trésor fabuleux dont ils doivent prendre soin, et que ce trésor, c'est quelque part Dieu présent au milieu de leur couple, à travers cet amour, ça commence à prendre un peu. On peut parler de Dieu, quoi. C'est pas un sujet étranger, c'est pas un sujet banni. C'est lui le cœur du sujet. Donc
C'est aussi quand même.
oui, non, bien sûr. Bien sûr.
Ce parcours, vous l'avez bâti, dans ce parcours, sur toute réflexion, vous l'avez bâti tous les deux, ça a dû faire plusieurs
En équipe, non, en équipe.
Ça, on l'avait fait, ça, on l'a fait en équipe.
D'accord, c'est pas le fruit de vos troupes.
Nous, on était les seuls à avoir participé à
Ouais,
ce parcours-là.
on a écrit ce truc-là il y a quelques années déjà,
On s'appuie beaucoup dessus
dans
quand même.
lesquels il y a de grosses bases de ce qui est présenté là.
La pédagogie initiale, elle était déjà là-dedans.
Ouais.
Vous avez toujours accompagné ça fait longtemps que vous en accompagnez? Combien de temps?
Longtemps.
Une trentaine d'années, je crois.
Mais on n'a pas toujours fait exactement pareil. Et sincèrement, on continue à le faire, non pas parce que c'est la routine qui tourne. Non, on continue à le faire parce qu'on en a énormément de bonheur. À chaque fois, on voit des choses fantastiques qui se passent et on s'en lasse pas. Voilà, c'est aussi simple que ça.
On va
Bon.
être trop, vraiment trop vieux,
Ouais,
on n'arrête
on
pas.
commence à avoir des cheveux. Bon, on a encore les cheveux, mais bon.
Quelle est la taille des groupes que vous prenez pour assurer un peu fluidité dans les échanges, etc. Parce que trop nombreux, c'est compliqué. Pas assez, c'est
Oui,
ce que les gens veulent.
c'est ma question.
Ça
Alors,
va, ça va être la
attends. La
question.
taille, la question, c'est quelle est la taille des groupes optimales pour arriver à fonctionner, enfin quelque chose comme
Oui,
ça.
parce que bon, ouais.
Nous, on est particulièrement heureux quand on a 4 à 5 couples.
On a déjà eu 8 couples,
Mais c'est trop.
c'était trop. Ils
Ouais.
n'ont pas tous le temps de parler. On passe beaucoup de temps pour faire connaissance. C'est
On a
pas.
eu jusqu'à 2 couples et 8 couples. Ah, sinon, on fait de l'accompagnement individuel. Ça arrive aussi quand il y a des mariages pas prévus, il n'y a plus de session prévue organisée, on fait quelques rencontres en individuel.
Mais deux ou trois couples, on arrive à aller très loin
Ouais.
avec eux. On approfondit beaucoup plus.
Du coup, vous avez plusieurs interventions dans l'année ou
Ouais.
alors parce
Ouais.
que
On
on
fait
arrive à
3 sessions en règle générale. Dans l'année, on fait 3 sessions.
Il y a des questions sur la session.
Ah.
Ah, question, on écoute.
C'est dans les
Ah,
textes.
c'est dans les textes en bas.
Oui,
Alors, il faut mettre les lunettes.
discussion.
Discussion. Stock. Oui, il y a 2 discussions.
Je ne vois pas la
Là.
discussion. C'est là.
Ouais, vas-y.
Même remarque, votre proposition est très riche et porteuse du message de Dieu. Merci beaucoup pour ce
C'était
partage.
pas vraiment une question, mais c'est gentil.
Pierre et Romain.
Et l'autre?
Et l'autre.
Qui? Je sais pas où il est l'autre. Il n'y en a plus? Non? Bon, ah ben non, a priori. Oui.
Encore, excusez-moi, mais ça m'a pris. En 30 ans, quand même, on nous dit qu'on dirige un peu un message pessimiste sur le mariage, il y en a de moins en moins. Vous, qu'est-ce que vous avez remarqué en 30 ans dans les questions liées au couple? Est-ce que ma question n'est pas claire, mais
Si, je pense que si.
Attends.
J'ai de la traduire.
Quelle évolution on a vue dans les couples qu'on accompagne en 30 ans?
En 30 ans. Moi, j'ai un peu de tendance à dire que c'est une espèce de sinusoïde. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans ou 25 ans, on avait pas mal de couples assez fortement engagés dans la vie chrétienne. Bon, beaucoup plus nombreux que maintenant. et plus équilibré dans la mesure où, en règle générale, les deux avaient quand même une culture religieuse plus que maintenant. Maintenant, très souvent, il y a un des deux, voire aucun des deux, qui n'a vraiment une culture religieuse. Donc ça c'est sûr que c'est une forte évolution. Mais en même temps, quand je dis c'est une sinusoïde, parce qu'on est passé par un creux où il n'y avait plus trop grand-chose. Et là, je trouve, mais Muriel la pense peut-être pas exactement de la même manière, je trouve qu'on a à nouveau maintenant des demandes qui sont des demandes enracinées quelque part, quoi. C'est-à-dire que ceux qui demandent le mariage aujourd'hui à l'Église, c'est pas juste pour être marié en blanc et faire la belle photo.
Mais c'est vrai aussi qu'on accompagne des couples sur Carnac, Quiberon, etc., dont beaucoup viennent de régions parisiennes parce qu'ils ont des résidences secondaires.
Ou Rennes et Nantes.
Parce qu'ils ont des résidences secondaires à Carnac ou à la Trinité ou à Quiberon.
Et ils vont se marier là.
Et souvent, c'est un milieu un peu spécial. Ce n'était pas forcément les mêmes que ceux qu'on avait en région parisienne. C'était souvent des milieux beaucoup plus simples.
Mais on a eu des marins pêcheurs, mais c'est vrai que c'est minoritaire.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, ce sont de les faire se côtoyer, justement. Et c'est souvent très riche. Hein.
Il y avait une question sur le chat que je peux vous lire, si vous voulez.
Oui, on la regarde.
Oui. Est-ce que certains couples, en faisant ce temps sur les piliers ou leur préparation au mariage, se rendent compte au final qu'ils ne sont pas faits pour ça, pas prêts ou pas faits l'un pour l'autre?
C'est arrivé. C'est arrivé, on ne le sait pas toujours. Mais enfin, on ne le sait pas toujours sur le coup, même on ne le sait jamais sur le coup. Mais il y a des couples qui ont décidé de ne pas se marier après un temps de préparation.
Oui, c'est minoritaire.
Ah oui, c'est une toute petite minorité. Bon, de la même manière, hein, le Covid a retardé beaucoup, beaucoup de préparations. Nous, on a été témoins de couples que ça a réunis et qui vraiment se sont dit, il faut qu'on se marie. Et puis, on a connu des couples qui ont explosé en vol pendant le temps de Covid. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait qu'il y ait des Covid tout le temps pour que ça soit un peu l'épreuve de vérité. Mais...
il y a vraiment... C'est vrai qu'on en a vu au moins trois qui ont pris la décision de se marier pendant le temps du Covid ou après le temps du Covid, qu'ils se retrouvaient tous les deux enfermés dans un appartement pendant un mois.
Ou même plus qu'un mois.
Plus qu'un mois.
Mais qui se sont dit, c'est assez costaud, on peut y aller, quoi. On fait des formations de plus en plus tôt, je trouve, c'est bien.
Vous n'embêtez pas. Sur le temps à avoir avec les fiancés, on a des milieux très différents, comme vous l'avez dit, des niveaux intellectuels différents et des niveaux de foi différents. On a peur parfois de perdre également par le bas, puisque les groupes sont très diversifiés. Est-ce que vous pensez qu'il faut toujours rester exigeant, quoi qu'il arrive, avec une parole un peu radicale, c'est-à-dire que l'Église a quand même... une parole un peu radicale sur le mariage? Est-ce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, les ménager, par exemple sur des questions liées à la sexualité? Là, ils ont tous une vie sexuelle depuis des années. Enfin, on n'a plus de couple, on n'a jamais eu de couple chaste, qui vivent la virginité ou des choses comme ça. Et pourtant, la parole de l'Église, elle n'a pas changé là, sur les relations sexuelles avant le mariage. Et récemment, là, un prêtre a rappelé devant tout notre groupe de fiancés que s'ils avaient des relations sexuelles, etc., et qu'ils n'étaient pas confessés, ils n'auraient pas accès, peut-être que ce n'était pas le moment pour eux d'aller communier. Et donc ça crée pas mal de questions, c'est très délicat, parce qu'il y a des fiancés qui sont venus vers nous en disant « mais qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on pensait qu'on était proche de Jésus ». Et c'est sûr, effectivement, on a trois enfants, mais une vie sexuelle. Enfin, bref, du coup, c'est toujours très difficile, je trouve, de trouver la bonne façon de les rejoindre.
On va peut-être répéter un petit bout de la question pour ceux qui sont loin, parce que je pense que vous n'avez pas entendu. La question, je vais essayer de la résumer, elle est assez complète, assez longue. C'est quelle position par rapport à des propos qui sont souvent parfois tenus par des prêtres sur une exigence forte en termes de non-consommation du mariage avant ou confession si on vit déjà ensemble et ainsi de suite. C'est-à-dire que un peu le côté, je grossis peut-être le trait, le côté un peu légaliste et du mariage chrétien. Bon, voilà.
Merci. Quelle exigence avoir par rapport
au couple. Alors, nous, on se réfère pas tout à fait de la même manière. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, on se présente pas du tout comme des juges. On n'est pas prêtre non plus. Mais ce qui est dans notre position, c'est de dire. On n'a jamais été amené à le dire exactement comme ça. Je traduis ce que je pense comme ça. C'est en gros, autrefois, à l'époque de Jésus, quand on prenait sa femme sous son toit, on était marié. Le mariage n'existait pas en tant qu'institution. Et en gros, aujourd'hui, vivant ensemble, de fait, ils sont mariés. Et maintenant, c'est à eux de prendre la dimension de cet engagement, dont ils n'ont pas forcément pleinement conscience, et de le sacraliser en mettant Dieu au milieu. De là à dire « vous avez eu tort de consommer avant », entre guillemets, non, ce n'est pas notre propos.
Ce qu'on leur conseille souvent, c'est quand ils vivent ensemble, c'est d'avoir un temps avant leur mariage, un temps de chasteté où ils vivent, ils
prennent un peu de recul.
Ils ne vivent plus ensemble pendant une quinzaine de jours avant.
Mais on ne veut pas casser ce qu'ils vivent en leur disant ce que vous vivez, c'est moche, c'est pas vrai. Enfin, je ne le pense pas.
Non, mais c'est pas ce que je veux dire le truc. Je me souviens dernière, on avait une intervenante du clerc. Mais alors, elle a été mais vraiment d'une lucidité là-dessus. Le père était présent aussi. Et elle a eu une telle façon de l'expliquer qu'on a vu que ça leur avait une nouveauté qu'ils entendaient et une interrogation. Donc, il faut peut-être laisser ça à des gens qui ont des formations
oui, tout à fait.
Comme ça. Parce que nous, c'est un peu difficile d'intervenir. Les mots peuvent être blessants,
oui.
Voilà.
Mais on a une invitation à leur faire qui, elle, est une invitation forte et pas au rabais, qui est une exigence de vie en vérité. C'est-à-dire de ne pas tricher, si, que leur amour soit vrai, soit sincère, soit fondé, soit costaud et pas juste... on est bien ensemble, quoi. On est bien ensemble, c'est sympa, puis le jour où on ne sera plus bien ensemble, on verra, mais pour l'instant, on est bien ensemble. Non, il faut une exigence pour les amener à fouiller plus loin. C'est quoi s'aimer ? C'est ce dont on parlait tout à l'heure.
Il y en a tellement de jeunes aujourd'hui qui sont dans cette situation, on est bien ensemble, on reste ensemble jusqu'à ce qu'on ne s'aime plus, quand on voit des couples qui aujourd'hui demandent le mariage chrétien et veulent justement cette indissolubilité, cette fidélité, etc. Veulent le vivre pleinement. Eh ben, on va pas les.
Mais, bon, nous, on a déjà un peu évoqué ces sujets comme ça avec notre recteur, notamment. On n'a pas ému particulièrement. Hein. Il n'avait pas l'air d'être en opposition avec ce qu'on lui disait. Bon. Après, il y a différentes sensibilités.
Mais c'est vrai que très souvent. À la fin, quand on leur demande, parce qu'à la fin de chaque rencontre, on leur demande de remplir un papier avec des questions sur ce qu'ils ont pensé sur la rencontre. Très souvent, ils nous disent merci aux animateurs d'avoir été si ouverts.
Oui. Mais on ne fait pas ça pour être gentil. Ça n'a aucun intérêt. On ne cherche pas à se quitter et qu'ils aient une bonne image de nous. On cherche à se quitter avec quelque chose qu'ils ont au fond d'eux-mêmes et qui va les amener à travailler. Mais de fait, c'est un peu ça qu'ils expriment quand même. Ils craignaient d'avoir des positions plus raides, quoi.
Moi, j'ai envie de rajouter, si c'est possible, par rapport à la question qui a été posée, que... On peut dire des choses, je pense, mais il faut aussi déjà qu'on en soit complètement imprégné nous-mêmes et en fonction des couples qu'on a en face de nous. Et je pense qu'il n'y a pas forcément une règle, ni celle du prêtre, ni celle des laïcs, qui soit différente, mais que chacun, on peut essayer de transmettre du mieux possible le message de l'Église
en fonction du couple qu'on a en face de nous ou du groupe, et en fonction de ce qu'on est aussi, de la façon dont on vit, de la façon dont on croit, et voilà. Mais faire au mieux, on n'a pas non plus la responsabilité d'avoir la totalité de la préparation au mariage à notre actif. Il ne faut pas oublier que les prêtres ont aussi leurs entretiens, eux aussi, ils ont des messages à passer, et c'est un parcours, c'est un cheminement qui dure... Qui dure plusieurs mois et après toute une vie d'ailleurs.
Oui, oui, parce qu'on a eu toute une formation, elle était ici au diocèse, on a eu toute une formation sur le fait qu'on ne devrait pas parler de préparation au mariage, mais de préparation à la vie dans le mariage. Donc, et c'est vrai, si on dit préparation au mariage, on a l'impression que le jour où on est marié, paf, ça y est, on a le diplôme, et puis non, c'est juste le commencement, quoi.
Mais après, avec la discussion qu'on a eue avec ses fiancés, moi je me suis dit à posteriori, on se rend bien compte qu'en fait on les prend là où ils en sont dans leur chemin de foi et qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas entendables à un moment T, peut-être qu'ils le seront dans quelques temps. Enfin, mais c'est comme tu disais, Lanelle, il faut les prendre aussi en fonction d'eux, peut-être que c'est pas adapté au discours de l'Église, parce qu'il est même pour tout, mais peut-être qu'il y a un moment pour chaque chose et qu'il y a des choses qui sont...
Oui, mais encore une fois, on peut avoir une exigence forte de vérité. Bon, ça, il n'y a pas là-dessus à se situer au rabais. Tout ce qu'on a échangé là aujourd'hui, on le leur dit, sans aucune concession. On va même un peu plus loin parce qu'on a plus de temps, mais on peut réfléchir avec aussi leur questionnement propre et tout, mais on ne diminue rien quand on...
Vous avez dit que vous aviez trois sessions, c'est trois fois une journée, mais pas pour les mêmes couples.
Non,
des couples différents.
Des couples différents, ouais. Des couples différents.
Je continue sur quelle est la rotation pour un couple de, avec votre présence à vous, vous les rencontrez une seule fois, trois fois, quatre fois, cinq fois?
En règle générale, nous on les voit presque deux fois, presque tous deux fois. C'est-à-dire qu'on les voit la journée en question et on les revoit au week-end organisé.
Par contre, quand on faisait de l'accompagnement individuel…
On les voyait 4-5 fois, même parfois 6. Bon, on faisait en accompagnement individuel, on faisait une soirée pour faire connaissance, une soirée par thème et souvent une soirée après qu'on appelait projet de vie. C'est-à-dire comment maintenant sur les bases qu'on a découvert qui sont les fondements de la foi chrétienne, comment on envisage d'orienter nos vies. C'est pas le plan soviétique, hein. On leur demande pas ça. On leur demande quelles sont les priorités et puis on leur demande pas forcément les réponses. On les invite à se questionner. C'est quoi que je vais mettre comme priorité dans ma vie? Qu'est-ce qui va? Mais donc là, on avait plus de temps. On faisait ça sur une année complète où ils étaient tous disponibles pour venir le soir. Bon.
Et on faisait toujours avant de faire les quatre piliers. On faisait une soirée sur le thème amour et altérité.
Oui.
Qui permettait d'aller beaucoup plus loin dans.
Ouais. Ouais.
Et là, vous faites une bonne journée pliée, avant le week-end.
Oui. En règle générale, il arrive, le week-end est toujours placé au mois de mars et on a toujours une session aussi au mois d'avril. La dernière est au mois d'avril. Donc, il y a une session qui est après. Mais.
On a une autre question sur le chat, je peux vous la lire?
Heureusement que vous êtes surveillante du chat.
Et vous, évoquez-vous explicitement l'importance de la place de l'éducation religieuse des enfants et la leur pour consolider les piliers?
Alors, au niveau des enfants…
On en parle quand on parle de la fécondité.
Ouais, on en parle toujours. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Et sur quelle base de foi vous allez les élever. Donc oui, c'est toujours un sujet. Sur l'autre volet de la question sur l'après, on est en ce moment dans plus qu'une réflexion sur l'après-vente post-mariage. C'était on est en train de construire un parcours pour des animateurs de petits groupes qui voudraient rassembler des petits groupes après leur mariage, 1 ou 2 ans après leur mariage, pour cheminer avec eux pendant 1 ou 2 ans sur des chemins, sur des sujets de vie éclairés à la lumière de la foi chrétienne.
On a un thème sur
la transmission de la foi dans ces fiches-là. On a pour objectif de construire 20 rencontres, on en a construit 14 pour l'instant. J'espère bientôt fini, mais il reste un petit peu de boulot. Et nous, on va se lancer en septembre sur la création d'un premier petit groupe post-mariage, 1 ou 2 premiers petits groupes post-mariage là-bas, dans notre coin. Parce qu'on est toujours désolé d'avoir perçu des belles choses chez eux, de sentir que ça résonne, que c'est pas juste un machin de décorum, il y a vraiment quelque chose. Et puis on sait très bien que on va les perdre, quoi. Ils sont loin de nos communautés, donc on les verra pas avant je sais pas combien d'années si on les revoit. Donc essayer de proposer un chemin qui petit à petit conduise à faire partie de la communauté chrétienne, ça nous semble important. C'est la première fois qu'on travaille vraiment juste ensemble à deux. Parce que celui-là, on l'avait fait, mais on était 6, alors bon, c'était pas pareil. Maintenant, c'est juste 2 et on arrive à le faire sans s'engueuler.
On nous demande si vous connaissez les dossiers des équipes 3 ans.
Les équipes 3 ans, attends.
Du Clair,
oui, les fiches du Clair, oui. Il y a ça, et puis il y a aussi un autre parcours qui est pas très très loin, qui est fait par les équipes Notre-Dame. Tandem, voilà.
Mais c'est différent, on en a parlé. Parce que vous intégrez beaucoup plus
la parole de Dieu. Ouais, voilà. Nous on est exactement sur la même logique. On est dans une école de la foi un peu. Mais en partant de la vie, c'est-à-dire qu'on a un thème sur l'argent, on a un thème sur la sexualité, on a un thème sur je sais plus tous les thèmes. Il y a des thèmes assez religieux et puis proches du cœur de la foi. Puis il y a des thèmes qui sont très proches de la vie, mais qu'on éclaire toujours à la lumière de la parole. On vous a achevé là, ça y est, vous êtes tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on a zappées au loin là? Non, ça va, c'est clair. Bon. Eh bien, écoutez, un grand merci à chacun pour votre participation. Et puis, bonne route.
Donc, on vous met tout ça sur les
voilà, sites. Voilà, vous aurez tout ce qu'on a pu discuter là, vous l'aurez en ligne.
On verra que les fichiers à la mail.
Il n'y a pas de secret. Au revoir à tous ceux qui sont loin.
Merci beaucoup, bonsoir.
Voilà,
merci à tous, bonsoir et
merci.
Prochain thème, mois de mai, c'est 14.
C'est pas mon agenda.
Vous prenez bien 14 pendant les vacances, on a besoin de vous pour finir la vie. Et merci à Hervé et Muriel pour cette présentation très concrète qui va vous servir dès demain. Merci.
Bonne soirée. Oui, parce qu'ils ont une rencontre, je pense.
Ah, merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Non, et donc, je vous dis à Armée, c'est bon.